C'est fort, mais donc je suis pas, ça me dérange pas. Et démolisseuse, ça me dérange pas non plus. Mais c'est pas seulement ça. C'est bien parce qu'il y a des choses qui m'émerveillent et qu'il y en a pas assez. C'est pour ça que je suis très souvent révoltée contre ce monde qui empêche justement. C'est-à-dire que je pourrais dire que ce livre-là, je ne l'ai pas fait exprès, parce que dans le fond, les dernières années, depuis 4-5 ans, enfin, j'avais été très d'abord choquée par l'enlaidissement du monde, et ce qui m'avait amené à laisser ce qui n'a pas de prix. Où je me suis aperçue que, pour aller très vite, cet enlaidissement du monde était lié au fait que, tout d'un coup, on se trouvait dans un moment où le capital avait décidé la marchandisation de tout. C'est-à-dire, après avoir exploité le monde extérieur, la surface du monde extérieur, les profondeurs du monde extérieur, tout d'un coup, il s'agissait aussi de faire de l'argent avec ce qui, jusqu'à présent, résistait encore. C'est-à-dire le monde intérieur, et donc qui essayait de coloniser justement notre vie sensible.
Au fur et à mesure qu'on développait cette critique-là avec Armand, comme lui aussi était aussi un fou d'image, on se disait, mais quand même, c'est pas possible, il y a quelque chose. Comment est-ce qu'il y a encore des images qui tiennent, qui échappent à cet asservissement auquel les images sont soumises actuellement? Je me suis dit, c'est peut-être l'occasion de voir s'il y a encore des images qui tiennent. Qui tiennent. Voilà le point de départ du livre. Et en réfléchissant à ça, je me suis rendu compte qu'il y avait quelques images qui m'accompagnaient, qui m'avaient accompagné longtemps, depuis longtemps. Et avec cette qualité-là, que ces images n'avaient aucune valeur affective pour moi. Donc de ce fait, c'était presque un gage de, je dirais pas d'objectivité, parce que ça ne veut pas dire grand-chose, mais qu'il il y avait quelque chose dans ces images qui me paraissait échapper à, ou avoir en elle la force d'échapper à l'asservissement de l'image qui se produit actuellement. Énigmatique dont vous parlez, et que c'était ça en quelque sorte qui les sauvait. C'est-à-dire, on ne pouvait pas les réduire à quelque chose, elle n'est pas interchangeable. En fait, du moins pour moi, on n'avait pas réussi à les asservir. Donc j'ai essayé de voir qu'est-ce que c'était. Et c'était cette part d'ombre. Et la part d'ombre qu'il y avait dans ces images, c'était comme si non seulement ça les sauvait, mais il y avait comme s'il y avait une énergie et comme une vitesse qui les entraînait, qui les faisait partir ailleurs. D'où ce titre, La vitesse de l'ombre. Et je me suis dit, je vais les suivre. J'ai vu que certaines se regroupaient par deux ou trois, de sorte à faire après ce que j'ai appelé des constellations. Et ce faisant, j'ai voulu savoir qu'est-ce qui se passait dans ces constellations, de quoi il s'agissait. Donc j'ai un peu forcément là plutôt réfléchi pour essayer de comprendre ce qui était en jeu. Mais et effectivement j'ai appris, et sur ces images, et un peu sur moi-même, mais ça a beaucoup moins d'intérêt. Et du coup, ce qui m'a paru très très important dans cette constellation, c'est que ces images, par les constellations qu'elles faisaient, ouvraient un autre espace. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que, avec cette démarche-là, bizarrement, c'était une démarche politique. Parce que ces images se disposaient et de sorte, de façon complètement, qui allait complètement à l'encontre, justement, de la façon dont les images nous sont présentées, aujourd'hui, les unes après les autres, sans aucun espace autour d'elles. Et je me suis rendu compte qu'une des censures effrayantes de ce temps, c'était qu'on nous censurait l'espace. L'espace où nos gestes, nos rêves, nos impulsions pouvaient se déployer. Or maintenant, il n'y a plus cet espace-là. Il n'y a plus l'espace que l'image se déploie. Il n'y a plus l'espace de ça. Et on voit très bien la reconfiguration de la perception qui se fait justement avec le monde numérique. C'est-à-dire, il n'y a plus d'espace que cet espace à deux dimensions. Ou alors, pour ce qui est du temps, on sait très bien qu'il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de moment intermédiaire, puisque c'est le présent sans présence qui s'impose. Mais pour cette histoire aussi d'espace, c'est-à-dire qu'on a un espace sans profondeur, mais aussi complètement, qui a complètement effacé la notion d'infini, la notion de perte de vue. Et là, il me semble que c'est une censure importante sur laquelle on n'a pas assez insisté, qui est cette censure de l'espace. Il se passe.
Spies sent a signal, but they came with no warning. It was trouble that morning. Trouble that morning. Trouble that morning. Flag sent a signal, but they came with no warning. Oh, trouble that morning. Go now to the other towers at the edge of the diamonds. Zion. Aboriginal in Africa. And mama, by the guns called to claim all you hold dear. Aboriginal in line, searching to call on an older prayer. But trouble that morning, trouble that morning. Friends, send a signal.
Il y a ça quelque chose et on ne sait pas du tout quel est ce qui se passe. C'était la grande porte ouverte vers le monde imaginaire même. Et par aussi par cette question, cette soif insatiable de l'infini. Mais bon, c'est quand même la question de l'infini aussi qui se pose. Le jockey perdu. C'est ça qui est important. C'est le jockey. Donc c'est un cavalier qui doit faire sa performance, qui est pris dans un circuit. Or, le coup de génie du tableau, c'est que, il s'en va. Il s'en va. Il prend la tangente dans les grandes largeurs et il s'en va dans quoi ? Dans un paysage de neige, dans une blancheur qui remet en question tout, en quelque sorte, tout, pas tout le paysage, mais tous les paysages.